Voilà, bienvenue à vous, Monsieur Roland Gori. Vous avez été professeur de psychologie et de psychopathologie clinique à l'Université de Marseille-Aix. Vous l'êtes aujourd'hui à titre émérite. Vous êtes psychanalyste membre d'Espace Analytique. Et des nombreuses publications qui sont parues de vous sous votre nom, je vais citer la dernière, « Un monde sans esprit, la fabrique des terrorismes ». Duquel livre j'avais à l'esprit de trois citations donc, qui guident votre pensée, sans doute votre pratique aussi. La première est de Freud. Le croyant ne se laisse arracher sa foi ni par des arguments, ni par des interdictions. Et y réussit-on avec quelques-uns que ce serait une cruauté. Une personne qui pendant des décennies, après des narcotiques, ne peut naturellement plus dormir si l'on vient à l'en priver. L'effet des consolations que la religion apporte à l'homme peut être mis en parallèle avec celui des narcotiques. Freud, l'avenir d'une illusion. La deuxième, évidemment, c'est Marx. La misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part, la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. Karl Marx, l'opium du peuple. Et enfin, de vous à moi, Walter Benjamin, un court passage de ce très beau texte qui s'appelle Le Conteur.
De traduction.
Le compteur. L'art de compter est en train de se perdre. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter une histoire. Et s'il advient qu'en société, quelqu'un réclame une histoire, une gêne, de plus en plus manifeste, se fait sentir dans l'assistance. C'est comme si nous avions été privés d'une faculté qui nous semblait inaliénable, la plus assurée entre toutes, la faculté d'échanger des expériences. Voilà, nous voilà prêts à flâner avec vous.
Eh bien, merci beaucoup Marc Pitet de cette présentation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et un grand merci aussi à Christophe Pitet de m'avoir invité. Alors, sur la question du travail social, je ne suis pas particulièrement compétent, mais je crois que vous avez été largement éclairé hier, notamment par mon ami et complice Michel Chauvière. La question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nos métiers du soin, de l'éducation, de la recherche, du travail social, de la justice, sont en voie de prolétarisation et perdent finalement la capacité de rendre les services qui avaient été institués de par ses finalités de soigner, éduquer, accompagner, chercher, juger. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que nous sommes ce que j'appelle des professions canaries. Vous savez ce que c'est, les canaries ? Les canaries, ce sont ces pauvres oiseaux que les mineurs descendaient naguère au fond des mines pour prévenir les coups de grisou. C'est-à-dire que, étant donné l'appareil, enfin la structure anatomophysiologique de l'appareil respiratoire de canari, il ressentait bien avant les humains, par des signes d'agitation, voire tout simplement d'asphyxie, le gaz inodore et incolore qui allait produire le coup de grisou. Eh bien, je crois que, c'est un peu le sens de l'appel des appels, je crois que nos métiers du travail social, nos métiers du soin, nos métiers de l'éducation, nos métiers de la culture aussi, sont des professions canaries qui, justement, anticipent les coups de grisou sociaux qui vont advenir. Je crois que c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ces professions sont, je dirais,
en souffrance ou en tout cas ont beaucoup de mal à retrouver leur marque du fait même qu'elles se voient prolétarisées, c'est-à-dire qu'elles se voient décomposées, recomposées selon un certain nombre de modules très techniques qu'on appelle abusivement des compétences en vue de rendre des services qui ne sont rien d'autre que ceux d'une gestion prévisionnelle de populations à risque. Donc effectivement, nous avons quelques difficultés à retrouver, si je veux dire, le sens de nos métiers. Alors, qu'est-ce que la prolétarisation? Puisque c'était un petit peu le titre donc, de mon bref exposé. La prolétarisation, si vous voulez, si vous vous souvenez, c'est un terme de Marx. Ça va, on m'entend bien?
Oui, parfait.
C'est parfait. Bon. Et c'est un terme de Marx, du jeune Marx, hein, le Marx un petit peu hegelien, le Marx de l'aliénation. Et effectivement, c'est bien tout ça dont il s'agit, d'une société aliénée avec des métiers qui, justement, ne sont plus en voie de produire une émancipation sociale, mais au contraire de participer, si j'ose dire, à l'aliénation et à la réification de ces populations. Eh bien, la prolétarisation, c'est un terme que Marx emploie en le référant à la philosophie grecque d'une certaine manière. Le prolétaire, c'est celui qui finalement n'a rien d'autre que la nudité de son existence pour vivre. Alors, et prolétaire, c'est pas chez Marx, l'ouvrier, non seulement eu égard aux conditions matérielles de misère liées à l'industrialisation et liée à l'urbanisation. Il n'est pas simplement, si vous voulez, misérable dans ses conditions matérielles, il est aussi misérable dans sa culture, dans sa possibilité de se servir de son savoir-faire, de son savoir-être, de son savoir. C'est-à-dire que, si vous voulez, la prolétarisation, ce n'est pas simplement la misère matérielle, c'est aussi une misère symbolique. C'est ce point sur lequel je voudrais insister. Pourquoi cette misère symbolique? Eh bien, parce que le savoir, le savoir-faire, le savoir-être de l'artisan se trouve confisqué par les exigences des machines. C'est les machines qui lui prescrivent les actes organisés, rationalisés et fragmentés qu'il doit accomplir. Il est donc dans l'aliénation totale à la machine, n'est-ce pas? Et vous vous souvenez de cette phrase absolument terrible de la philosophe Simone Weil, n'est-ce pas? On se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. Et tout se passe comme si le lieu de la décision, n'est-ce pas, se déplaçait de l'être de l'artisan vers le mode d'emploi de la machine qui prescrit, encore une fois, à l'ouvrier, n'est-ce pas, l'ensemble des actes séquentiels qu'il doit accomplir. C'est-à-dire qu'il est dépossédé non seulement de son produit, transformé en marchandise, mais il est dépossédé du processus de production, puisque ce processus de production, si vous voulez, lui échappe dans la mesure où c'est l'instrument dont il devient lui-même instrument qui lui prescrit ce qu'il doit faire. Alors, cette prolétarisation, elle est beaucoup mieux exemplifiée que je ne saurais le faire par le film, par exemple, « Les temps modernes » de Chaplin, n'est-ce pas, où vous voyez l'ouvrier Charlot sur la chaîne de production accomplir le même geste, ce geste qui devient plus qu'un geste mécanique, qui devient une norme, c'est-à-dire qui devient ce que Pierre Bourdieu appelle un habitus, c'est-à-dire une disposition à penser et à agir d'une certaine manière. Eh bien, cet habitus, si vous vous souvenez du film, n'est-ce pas, cet habitus qui passe entre cuir et chair, qui devient une norme intériorisée, pas simplement une norme de comportement, mais aussi, encore une fois, une norme de pensée, une norme d'action, eh bien, cet habitus, ensuite, Charlot va dans la rue et il continue à réaliser, à accomplir le même geste sur la poitrine des femmes, sur les boutons qu'il visse, n'est-ce pas, comme sur sa chaîne de production. Et si vous vous souvenez du film, il passe ensuite lui-même dans la machine, dans l'horlogerie de la machine, il devient donc une pièce de la production. Eh bien, une pièce détachée de la production, donc si vous voulez, un rouage de la machine. Je crois que cette prolétarisation qui a été, bien sûr, analysée largement à propos de ce travail en miettes dont parle Friedman, dont parle Simone Weil, ce processus de prolétarisation s'accomplit aujourd'hui, par exemple, dans le monde paysan, où la prolétarisation du paysan provient, n'est-ce pas, de la confiscation de son savoir-faire, de son savoir-être et de son savoir au profit des prescriptions des industries agroalimentaires qui lui disent ce qu'il doit faire, ce qu'il doit produire. Eh bien, si vous voulez, aujourd'hui, et c'est le sens de l'appel des appels que Marc a bien voulu évoquer, auquel avec Michel nous participons largement, n'est-ce pas, eh bien, cette prolétarisation, elle impacte les métiers qui sont les nôtres, les métiers canaris dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les métiers du soin, de l'éducation, du travail social, de la recherche, de la justice, de l'information et de la culture. Nous sommes prolétarisés en tant que notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être, la dimension artisanale et artistique de nos métiers se trouve aliénée et confisquée par les exigences et les prescriptions des machines immatérielles mais bien réelles que sont les règles de bonne pratique, que sont les protocoles d'évaluation, que sont les différents dispositifs qui visent simplement à coloniser nos mœurs et nos esprits pour finalement nous conformer aux exigences de ce que Pasolini appelait la religion du marché. La religion du marché. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous devons en quelque sorte accomplir un certain nombre d'actes professionnels, non pas eu égard, encore une fois, aux finalités de nos métiers, mais simplement dans la foulée des exigences, n'est-ce pas, d'une religion du marché qui vise à nous faire voir le monde d'une certaine manière, qui fabrique ce que Foucault appelle le sujet éthique, c'est-à-dire une certaine manière de s'y prendre avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. C'est donc cette hégémonie culturelle qui s'est en quelque sorte infiltrée dans l'ensemble de nos métiers. Et elle s'est infiltrée dans l'ensemble de nos métiers, n'est-ce pas, avec en quelque sorte, n'est-ce pas, le vecteur principal des nouvelles technologies. La technique, depuis longtemps, nous le savons, le système technicien rend obsolète l'humain. Vous savez, de l'obsolescence de l'homme dont parlait Gunther Anders, n'est-ce pas, mais aujourd'hui, les nouvelles technologies, qui encore une fois, on en parlera sûrement dans le débat, pourraient permettre une émancipation sociale et politique, ces nouvelles technologies, elles assujettissent, n'est-ce pas, elles assujettissent les professionnels de par la traçabilité des comportements, de par la modélisation des comportements et de par la correction de ces comportements. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où il y a véritablement prolétarisation. C'est un peu de cela dont je suis venu vous parler, avec bien sûr la question comment nous en sommes arrivés là. Je viens de tracer rapidement quelques pistes. Maintenant, la question est de savoir comment nous voulons sortir, n'est-ce pas, de ce monde terriblement appauvri. Alors, comme Marc l'a rappelé, il va de soi, mais je ne suis pas ici pour en parler, c'est ce que j'essayais de développer dans mon dernier livre, il va de soi que, par exemple, l'émergence aujourd'hui des terrorismes, l'émergence aujourd'hui des populismes et des nationalismes, ou leur résurgence, pour aller vite, n'est-ce pas, sont totalement consubstantielles de cette hégémonie culturelle qui vise à considérer la nature et l'humain comme un stock d'énergie à exploiter à l'infini. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est malheureusement, ces terrorismes nous ressemblent dans la mesure où ils viennent attester comme des symptômes du mal de notre civilisation. C'est-à-dire une civilisation désacralisée, une civilisation, si vous voulez, entièrement transformée en marchandise et en spectacle. Bon. Alors, après avoir bafouillé comme ça quelques mots, je vais maintenant m'appuyer sur quelques citations. C'est un peu mon habitude, comme vous l'avez fait d'ailleurs, Marc, pour essayer de proposer quelques pistes. Et ensuite, dans les 10 dernières minutes, vous me ferez signe pour qu'on envisage comment on peut en sortir.
On a encore du temps.
On a encore du temps. Oui, mais j'espère, parce que tu vas commencer, Marc. Vous avez dit ça. Bon. Donc, les citations. La première est d'un économiste, vous voyez que je ne suis pas raciste, d'un économiste Keynes, qui dit « Nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne nous versent pas de dividendes. » Nous vivons donc dans un monde de l'obscurité et du froid si, effectivement, nous n'avons qu'une conception économique, ce que j'appelle technico-financière, de la réalité. Et aujourd'hui, les citoyens et les peuples sont placés sous curatelle technico-financière. Ils sont donc dépossédés de leur capacité de juger, de penser, de décider. C'est ça qui est en jeu. Et c'est là où, effectivement, c'est là où des professions, comme les professions du travail social, comme les professions de l'éducation ou de la santé, peuvent avoir un rôle déterminant, puisque d'une certaine manière, ce qu'il réclame, c'est la possibilité de penser et d'accompagner les autres dans cette possibilité de penser. En lieu et place, si vous voulez, de l'émancipation sociale et politique, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Vous avez un éloge énamouré à la compétitivité, à la compétition, à la force. Et nous sommes en ce moment en France, comme vous le savez, en train d'examiner une loi travail qui vise justement à accroître les conditions de flexibilité des travailleurs pour les transformer un peu plus en force de travail. La force, qu'est-ce que c'est ? Ben, la force, c'est ce dont parle Simone Veil quand elle dit « la force est ce qui fait de quiconque lui soumis une chose ». Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, elle en fait un cadavre. Donc nous sommes dans un monde de cadavérisation, de chosification, de réification du vivant. Aller, n'est-ce pas, comme aller transformer nos métiers dans le sens simplement d'accroître la force de travail, n'est-ce pas, des sujets que nous avons en quelque sorte en charge, c'est les adapter à des dispositifs qui les transforment en choses, c'est-à-dire en cadavres. Il y a une très belle phrase aussi de Simone Veil, que je vais quand même rapidement citer, et qui dit aussi « Nous ne sommes géomètres que devant la matière. Les Grecs furent d'abord géomètres dans l'apprentissage de la vertu. » Et je crois que c'est aussi un point important qui pourrait dire en deux mots, hein, mais là j'ai pas le temps, qui pourrait dire en deux mots que nous ne sommes pas raisonnables dans la mesure où la raison est tombée dans les ornières d'un rationalisme économique et technique morbide. Il y a aussi d'autres formes de raison, mais ça on en parlera peut-être dans le débat. De la même manière que je dirais, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon dernier livre, je vais enlever la lucidité quand même, dans mon livre, c'est à savoir que le néolibéralisme enterre complètement la philosophie du libéralisme. Le néolibéralisme, si vous voulez, c'est le post-libéralisme. C'est la post-démocratie, le post-libéralisme. Alors, on poursuit sur les citations. Citation de Benjamin. Une toute nouvelle pauvreté s'est abattue sur les hommes avec ce déploiement monstrueux de la technique. Que vaut en effet tout ce patrimoine culturel s'il n'est pas lié pour nous justement à l'expérience ? Cette pauvreté d'expérience ne concerne pas seulement nos expériences privées, mais aussi celles de l'humanité en général, et c'est en cela une nouvelle forme de barbarie. Donc, comprenez bien, je ne suis pas technophobe. J'adore la technique, je ne me sépare pas de mon iPhone, de mon ordinateur, de mon iPad, etc. Sinon, je me sens profondément orphelin, ce n'est pas le problème. C'est que la technique a constitué un dispositif d'émancipation de l'homme face aux contraintes de la nature. En cela, c'est donc un dispositif d'émancipation sociale. Or, ce dispositif d'émancipation sociale s'est progressivement transformé en dispositif de confiscation de la capacité de penser, de juger, de décider. Il est donc devenu un dispositif d'oppression sociale, de soumission sociale. Et aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler, mais la folie des évaluations qui sont pseudo-scientifiques, c'est l'évaluation, ça n'est rien d'autre qu'une fabrique de la servitude volontaire. Ça n'est rien d'autre, si vous voulez, qu'une façon de vous donner les ordres sans en avoir l'air. Et en plus, on vous dit c'est indiscutable, c'est objectif, c'est scientifique, ça ne se discute pas. Donc on a trouvé vraiment le moyen de casser toute résistance sociale et singulière à l'oppression, si vous voulez, et au donneur d'ordre, puisque les dispositifs d'évaluation viennent se substituer, si je veux dire, à l'ordre du contremaître et du chronomètre. Alors, face à ça, puisqu'on en est juste pour les citations, après je commence mon topo, c'est promis. Face à ça, à mon avis, il y a une seule solution, une solution politique. C'est que la politique, ce n'est pas simplement les institutions. La politique, ce n'est pas simplement le changement de personnel politique. Nous avons une longue habitude en France de changer notre personnel politique pour ne pas changer la politique. C'est comme dans le guépard. Il faut changer les choses pour que tout reste pareil. Donc, vous voyez, la solution, c'est de réinventer l'émancipation du politique à partir des scènes professionnelles, à partir des lieux de travail. Et en partie, notamment des lieux de travail comme la santé, l'éducation, la recherche, le travail social, l'information et la culture. C'est là où les choses se jouent. Jaurès disait, la démocratie ne s'arrête pas aux portes de, aux portes de l'usine. Je crois que chaque fois que la démocratie s'est arrêtée aux portes de l'usine, on a en quelque sorte évité l'avènement démocratique. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, la démocratie, elle ne doit pas s'arrêter aux portes des laboratoires, aux portes des collèges, des lycées, des écoles, des centres sociaux, etc. Je crois que c'est ça l'enjeu majeur. Et c'est ce point sur lequel je voudrais intervenir. Et pour ce faire, je vais vous donner une citation d'Hannah Arendt, et puis je commence mon topo. La citation d'Hannah Arendt, c'est « La seule exception que consente la société concerne l'artiste qui a strictement parlé, est le dernier ouvrier dans une société du travail. » Et donc nous avons écrit avec mes amis Bernard Lubat, un musicien de jazz, et Charles Sylvestre, journaliste, un livre qui s'appelle « Le manifeste des ouvriers », c'est-à-dire, n'est-ce pas, une revendication à restituer la dimension artisanale et artistique dans les actes de nos métiers. Sans cette restitution, il n'y aura pas de changement politique. Et donc c'est un peu de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Le périmètre de mon intervention, je viens de le définir avec la citation de mes auteurs préférés, et pour finalement poser cette hypothèse que je vous propose, à savoir que si nos métiers se sont prolétarisés, ça n'est rien d'autre que l'extension généralisée du taylorisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, le taylorisme est, si vous voulez, étendu à l'ensemble des métiers. Et c'est parce que, justement, les politiques démocratiques, en particulier les politiques de gauche, n'ont pas pris la mesure de ce danger social, symbolique et subjectif, qu'elles sont trouvées dans l'impasse et qu'elles ont conduit la même politique que les droites conservatrices. C'est l'échec, c'est un travail remarquable d'un député européen-italien syndicaliste qui est Bruno Trentin, qui s'appelle La Cité du Travail, un travail absolument extraordinaire, qui montre justement que c'est l'échec de la gauche à proposer des projets alternatifs au néolibéralisme, vous voyez, qui provient de son incapacité à sortir de l'existant, et notamment, si vous voulez, de son incapacité à se rendre compte que c'est la liberté sur les lieux de travail qui conditionnait les libertés politiques. Et notre ami Robert Castel a aussi beaucoup travaillé là-dessus, en mettant en évidence que, si vous voulez, le droit social du travail anticipait toujours l'octroi de droits politiques. C'était que s'il n'y a pas restitution d'un droit citoyen sur, n'est-ce pas, dans la sphère professionnelle, il ne peut pas y avoir véritablement d'émancipation politique. Alors, je le dis, je le souligne, c'est bien la décomposition de nos actes professionnels. Et je sais que ça impacte le travail social, comme ça impacte aujourd'hui le milieu médical en France avec la T2A, la tarification à l'activité, si vous voulez, n'est-ce pas, avec dans l'université, justement, les évaluations des publications scientifiques, les impacts facteurs, les facteurs H, les facteurs M, etc. Tout ça, ce sont des dispositifs qui visent à tailoriser l'ensemble de nos métiers. L'ensemble de nos métiers. Et s'il n'y a pas d'objection à ce type d'évaluation, parce que la grande imposture, c'est de dire « mais vous refusez l'évaluation ». On ne refuse pas l'évaluation. On refuse une évaluation quantitative, procédurale, formelle, qui empêche le débat de la pensée critique, qui empêche le débat politique. Et qui, par conséquent, nous prédispose, si vous voulez, à la soumission sociale, nous prédispose à l'aliénation, nous prédispose à l'assujettissement. Et là, bien sûr, les nouvelles technologies, qui sont des moyens formidables, mais les nouvelles technologies se transforment en vecteur essentiel de cet assujettissement. Alors, on pourrait s'étonner qu'à l'époque du toyotisme, du benchmarking, de l'organisation horizontale et égalitaire, je puisse affirmer que les principes du taylorisme sont toujours d'actualité. Car oui, je l'affirme, je signe et je persiste. Plus que jamais, c'est le taylorisme qui essaime, diffuse et réorganise l'ensemble de nos métiers et qui le fait, n'est-ce pas, de manière d'autant plus facilitée qu'il y a cette infiltration de l'informatique dans le tissu des métiers. Les principes du taylorisme, ça a toujours été organiser, contrôler, évaluer. Eh bien, organiser, contrôler, évaluer, ce sont les maîtres mots aujourd'hui de l'organisation sociale de nos métiers, dont le métier, bien sûr, des travailleurs sociaux, et plus que jamais, ces métiers, du coup, sont prolétarisés et perdent le sens de leur finalité. On n'est plus là pour juger, soigner, éduquer, faire de la recherche, informer ou accompagner socialement. On est là pour répondre, n'est-ce pas, à des injonctions ordinales qui déterminent des scores que nous devons atteindre. C'est-à-dire que nous sommes tenus de regarder le compteur, n'est-ce pas, et d'essayer de pédaler pour obtenir le chiffre qui a été prescrit. Et du coup, nous ne regardons plus la route, et c'est pour ça que nous allons dans le décor. Donc ces principes, si vous voulez, d'organiser, contrôler, évaluer, ce sont ces principes qui encore une fois, sont aujourd'hui les grands organisateurs sociaux de nos professions, de nos métiers. Et ils n'ont qu'un seul objectif, augmenter la production individuelle. C'est-à-dire individualiser l'évaluation. Alors, prenez, je prends quelques minutes, n'est-ce pas, prenez par exemple le livre de Taylor, 1911, mais comme vous le savez, ça existait à la fin du 19e siècle, et ça existe encore une fois un siècle plus tard. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il faut une évaluation individuelle? Vous savez quand même que Taylor est arrivé à quadrupler le rendement des ouvriers à une usine, n'est-ce pas? Il l'a compensé par des augmentations de salaire. Alors aujourd'hui, c'est plus besoin d'augmenter les salaires, il suffit simplement de dire vous conservez votre emploi. Donc en gros, déjà, conserver son emploi, aujourd'hui, c'est la prime salariale, quoi. Alors, ce qui est très intéressant, quand vous lisez Taylor, c'est la philosophie qui se dégage de ce livre, qui est une philosophie esclavagiste. D'ailleurs, il paraît qu'il est allé... prendre un certain nombre de principes dans les collectivités d'esclaves qui ramassaient le coton dans les champs, hein, pour aller vite. Alors, c'est relativement simple, n'est-ce pas ? C'est quoi ? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, finalement, observe et établisse la cartographie des actes à accomplir, leur séquence, leur enchaînement, pour obtenir le maximum de la force de travail. Souvent, d'ailleurs, il est parlé de force de cheval, de choses comme ça, dans l'ouvrage, il faut le voir. Hein. C'est quand même assez extraordinaire, ce bouquin. Et donc, ensuite, l'ouvrier, lui, doit simplement accomplir ce qu'on lui a prescrit. Donc, vous voyez, c'est la prolétarisation dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit que l'évaluation doit être individuelle. Pourquoi ? Pour casser la flânerie naturelle de l'ouvrier. Pour casser la paresse naturelle de l'ouvrier. Et en particulier, cette flânerie qui lui ferait ralentir la cadence infernale pour pas que ses compagnons d'atelier soient mis au chômage. C'est-à-dire que l'organisation scientifique du travail est briseuse de solidarité sociale. Donc, si vous voulez, c'est un point qui est très important, je cite d'ailleurs, qui permet aux ouvriers, cette paresse naturelle, permet aux ouvriers de limiter leurs efforts pour, je cite, « assurer une occupation suffisante à un plus grand nombre d'entre eux et pour supprimer les sans-travail ». Vous voyez, c'est très clair, l'organisation scientifique du travail est briseuse de solidarité sociale. Donc, ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans les évaluations du travail social, dans les évaluations de la recherche, dans les évaluations de l'enseignement, dans les évaluations des actes médicaux, dans les évaluations, si vous voulez, des émissions de radio, de télévision, ou dans les... c'est ça qui est mis en place. C'est une évaluation individuelle qui nous met tous en concurrence et qui finalement nous met le nez sur la tâche pour ne pas réfléchir ensemble à ce que nous faisons. Donc, il y a, n'est-ce pas, encore une fois, une séparation entre décideurs et exécutants. Il convient donc d'entraîner les ouvriers à se conformer précisément aux instructions écrites qui guident les gestes. Et alors, ce qui est très intéressant par rapport à ce que nous connaissons et qui a justifié la pensée d'Ina, hein, il n'y a pas d'autre alternative, etc., c'est que ce qui est dit dans la préface d'introduction française, par exemple, de l'ouvrage de Taylor, c'est de dire, mais ça ne peut pas être discuté, ces lois de l'économie. Ce sont des lois naturelles. Ce sont des lois naturelles comme les lois de la physique. Et donc, il y a un déterminisme. Et donc, on n'a pas le choix. Comme aujourd'hui, on vous dit, on n'a pas le choix. La situation économique étant ce qu'elle est, on n'a pas le choix de s'organiser socialement et subjectivement comme on s'organise. Et donc, vous voyez, il y a comme une espèce de déterminisme irréfutable de l'économie contre lequel le préfacier de Taylor dit, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Hein. Et donc, vous savez que Maurras disait « la terre, elle, ne ment pas ». Aujourd'hui, le slogan, c'est « l'économie, ça ne ment pas ». Ce qui est déjà un très gros mensonge, puisque c'est le mensonge qui permet d'assujettir, bien sûr, les individus. Alors, le Châtelier, donc, qui est le préfacier de la traduction française de Taylor, dit qu'il faut, dans l'économie, croire à son existence. Tout le monde aujourd'hui croit aux sciences physiques, mais dans le domaine des faits économiques, il n'y a pas d'absurdité qu'on ne puisse mettre en avant avec la certitude de trouver des croyants pour les accepter. On ne soupçonne pas en général l'existence de relations nécessaires entre les différents faits économiques, c'est-à-dire l'existence de ce qu'on appelle les lois naturelles. Donc, l'économie se trouve naturalisée, et donc évidemment, à partir de ce moment-là, bon, alors, on va le dire très vite et très simplement, à partir de ce moment-là, les sociétés humaines ne peuvent pas s'organiser autrement que par des normes de comportement et de pensée qui les rapprochent des sociétés animales, où chaque individu est une pièce, si vous voulez, détachée de production collective. C'est-à-dire que... Alors, vous allez dire, mais quel rapport avec nous? Mais oui, c'est vraiment majeur, avec ce que vous faites, avec ce que je fais. Pourquoi? Parce que le sujet n'est plus rien d'autre qu'un exemplaire de l'espèce. Le sujet n'est plus rien d'autre qu'un segment de population statistique. Et je crois que c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que face à la nécessité de l'économie, face à la nécessité des machines, l'humain doit renoncer. Donc en gros, c'est la nécessité qui impose que l'on renonce à la liberté. Donc c'est un point, c'est pour ça que je sens mon intervention là-dessus. Si vous voulez en finir avec la prolétarisation du travail social, c'est très simple. Il faut revendiquer une liberté d'action. Cette liberté d'action, ça ne veut pas dire faire ce que vous voulez, bien évidemment. Ça, c'est l'hédonisme dont, justement, Anna Arendt a parfaitement montré que c'était, en quelque sorte, une dépolitisation du sujet humain. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais il s'agit d'une liberté qui vous permet d'œuvrer, de mettre en place des dispositifs d'action par le partage de la parole, par le partage de l'action avec d'autres. C'est-à-dire que la liberté, comme disait Anna Arendt, requiert la présence d'autrui. Il n'y a pas de liberté sans autre. Alors, je crois que la gauche européenne a fini par participer à cette construction d'un humain automate promu par Taylor, qui expulse de l'imaginaire collectif le projet d'un travail au cours duquel la personne se réalise pleinement, s'accomplit dans le processus d'une œuvre. Or, il faut bien le voir, depuis Marx et depuis Anna Arendt, par exemple, on sait bien que lorsque l'humain produit, il ne produit pas qu'un service ou un bien, il se produit en produisant. Et se produisant, il produit un type d'humanité. Donc la grande question aujourd'hui, c'est quel type d'humanité nous sommes en train de produire en produisant comme nous produisons. Alors, ce type d'humanité est très simple, c'est la robotique. Alors, ça, je n'ai pas le temps de vous en parler, c'est notre travail qui est en cours, n'est-ce pas ? Mais les robots sont parmi nous, ce n'est pas la peine d'attendre le transhumanisme. C'est effectivement le conformisme social qui est prescrit par l'ensemble des dispositifs mis en place dans l'éducation, le soin, la recherche, le travail social, l'information. Vous voyez ? Donc, en gros, on voit bien là que ce dont je suis en train de parler, c'est de la question de l'aliénation. De l'aliénation. C'est-à-dire que ce à quoi, n'est-ce pas, nous devons réfléchir dans l'ensemble des actes professionnels que nous pouvons accomplir, c'est quelle est la place de l'aliénation dans ce que je fais ? En quoi est-ce que je fais correspond à la finalité de ce pourquoi mon métier a été institué? Et comment je peux retrouver la liberté aliénée dans des dispositifs d'oppression sociale? Alors, c'est que comme vous l'avez compris, en gros, pourquoi est-ce qu'on a transformé nos boulots? C'est pas pour qu'on soit plus efficace, c'est pas vrai. Le terme d'efficace est un signifiant de machine. On vous dit, il faut que vous soyez plus efficace, ça veut dire il faut que vous fonctionnez. L'efficacité, c'est le signifiant de la machine. En gros, pour aller vite, n'est-ce pas, je pourrais même faire du Lacan, c'est quoi le désir du maître? C'est que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, toutes les évaluations, c'est quoi? C'est pour que ça fonctionne. Pour aller où? Alors ça, on sait rien, on s'en fout. Et il faut qu'on puisse retrouver, il n'y aura pas de pensée, il n'y aura pas de liberté sans retrouver un temps de réflexion, un temps de partage, un temps de parole, un temps d'échange, vous voyez? Et donc, toutes ces évaluations, toutes ces manières de transformer nos métiers visent simplement à imposer, à conforter, à maintenir une hégémonie culturelle. cette hégémonie culturelle, eh bien, c'est le règne sans partage d'une rationalité purement instrumentale de machine, couplée à une curatelle technico-économique des peuples et des citoyens. Alors, je vais vous donner un exemple très rapide, parce que sinon je vais parler comme ça pendant 3 heures, et vous ne me laisserez jamais parler pendant 3 heures. Donc, je vais plutôt vous donner l'expérience très rapide, pour vous montrer ce que devient le soin aujourd'hui. Le soin et le travail social. Vous me permettrez de rapprocher, bien sûr, les deux, comme ça a toujours été d'ailleurs fait traditionnellement. Pour ce faire, c'est vous savez, une très belle phrase de Michelet qui dit « Ce n'est pas l'homme qui fait marcher la machine, c'est la machine qui fait marcher l'homme. » C'est à ça que nous avons à faire. Alors les machines aujourd'hui, ce n'est pas que des machines mécaniques, c'est bien ça, matériel. C'est ça qu'il faut entendre. Hein. Là, je n'ai pas le temps de le développer, mais si vous voulez, le droit, la procédure, ce qu'on appelle le droit mou, voyez, c'est les recommandations, les règlements, c'est quoi? Ce sont des machines. La procédure, c'est de la machine. Les évaluations, c'est de la machine. Donc ce qui vous fait marcher, c'est la machine. Mais alors, pour produire quoi, ça? Certainement pas de l'humain. Là est le danger. Alors, je vais vous donner rapidement cette expérience. L'expérience pilote à Londres, qui a été relatée dans Le Monde du 2 août 2014, c'est une expérience pilote qui a eu lieu à Londres, mais qui a lieu aussi dans les pays d'Europe du Nord, qui a lieu aux États-Unis, au Canada depuis très longtemps, qui est relativement simple. Vous savez sans doute qu'à Londres, depuis la loi de 2012, il y a une répression très forte des personnes arrêtées à l'état d'ébriété, prises dans des troubles sociaux mineurs, hein, de type altercation, injure, bagarre sur la République. Bon. Alors, pas de pitié, le tribunal, les amendes, la prison, etc. Bon. La sanction, donc à un niveau répressif. Mais en lieu et place de cette répression, on leur propose une expérience pilote d'accompagnement social et thérapeutique, si j'ose dire. On leur propose de porter à la cheville un bracelet électronique, vous savez, comme les personnes assignées à résidence, un bracelet électronique qui mesure toutes les demi-heures, n'est-ce pas, le taux d'alcoolémie à partir de l'analyse de la transpiration, de la sueur. Et donc, à la moindre ingestion d'alcool, n'est-ce pas, l'appareil envoie une alerte qui risque de renvoyer le fautif devant un tribunal, voire en cas de récidive régulière en prison. Donc, en somme, le social, le thérapeutique, c'est quoi? C'est le surmoi prothétique de la machine qui finalement vous conduit, n'est-ce pas, gouverne votre comportement. Mais ce qui est intéressant, c'est la déclaration de l'ex-maire de Londres, aujourd'hui ministre anglais, n'est-ce pas, Boris Johnson. Il dit que le projet ne s'adresse pas aux alcooliques les plus sérieux, ceux qui sont connus de la police. Donc en gros, ce n'est pas les malades qui sont connus des psychiatres, ce ne sont pas les délinquants qui sont connus de la police, je le cite. On vise les gens qui exagèrent un peu trop un vendredi ou un samedi soir et qui se retrouvent dans des délits liés à l'alcool, par exemple des bagarres. Plutôt que de les emprisonner, on peut les aider avec cet appareil. Je crois que c'est moins cher et plus efficace. Ça, c'est très intéressant, très important. On peut les aider. C'est-à-dire la forme de l'aide. La forme du travail social ou la forme de la prise en charge thérapeutique dans notre société, c'est la machine. C'est, vous voyez, en gros, on s'en fout de ce pourquoi il picole le mec. On s'en fout complètement. Est-ce qu'il a un problème avec sa femme? Est-ce qu'il a un problème avec son employeur? Est-ce qu'il a une hallucination? On n'en a rien à foutre. Le sujet n'est plus que le résultat de la sommation de ses comportements. Donc, on n'a pas à savoir à quoi pense le patient, ce que ça signifie pour lui, quel rapport avec l'histoire singulière ou l'histoire collective. Ce qui compte, c'est comment il se comporte. Il peut être fou comme un lapin, on s'en fout, pour lui qu'il se comporte normalement. Toutes les interrogations des années 70, que vous avez dû connaître, mon cher Michel, est-ce qu'on a affaire à une psychose dissociative ou est-ce qu'on a affaire à une folie cynique? On n'en a rien à foutre. Désobéir, c'est supposer une autorité. C'est pour ça qu'il y a mal d'ordre politique. Parce qu'il n'y a plus d'autorité. Il y a un pouvoir normatif. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est, je peux vous aider, c'est que la notion d'aide, que ça passe par le travail social, que ça passe par le travail thérapeutique, la notion d'aide, aujourd'hui, c'est la machine. Donc, vous savez, quand je parlais de libéralisme, le message des Lumières de Kant, hein, qu'est-ce que les Lumières 1784, c'est quoi? C'est émancipe-toi de la tutelle des religions, n'est-ce pas, ne te fie que à ta raison critique et à ta loi morale, n'est-ce pas, sois autonome, etc. Bon, qui est un message de liberté, là, on s'en fout. On s'en fout complètement, encore une fois. On ne demande pas au type de se fier à sa raison. On lui demande de suivre le comportement que lui prescrit la machine. Et c'est ça qui joue aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas un bracelet électronique, c'est bien, ne vous inquiétez pas. Mais ça sera très fun, ce ne sera pas un bracelet électronique, on inventera autre chose, c'est pas ça. Mais on prescrit la manière dont vous devez vous comporter. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est moins cher. Oh, on ne discute plus. Hein. C'est un langage de comptable. Si c'est moins cher, vous savez, le néolibéralisme, il a deux mamelles. Hein. Il a l'économie, et vous voulez, et l'opinion. Disait Foucault. Donc là, c'est moins cher, donc il n'y a pas à discuter, et c'est plus efficace. Donc vous voyez, le langage de la machine, ça fonctionne, c'est plus efficace. Alors, est-ce que c'est plus efficace que ça, hein? Parce qu'il faut quand même réfléchir à ça. Alors on est allé voir aux États-Unis, n'est-ce pas, puisque ça fait plus de 10 ans que ça a lieu, et comme vous le savez, en Europe, on a tendance à recycler 10 ans après les surplus américains. Eh bien, si vous voulez, on s'est aperçu que dans le Dakota du Sud, par exemple, les gens qui avaient fait cette expérience, effectivement, ceux qui portaient un bracelet électronique, moins de 5% récidivaient. Tant qu'ils portaient le bracelet électronique. Quand on leur enlève le bracelet électronique, la moyenne des récidives rejoint la moyenne générale. Ça veut dire quoi, pour aller très vite? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, voyez, vous n'avez plus besoin d'une conscience morale. Vous n'avez plus besoin d'un surmoi. Vous n'avez plus besoin de faire avec la culpabilité, avec l'angoisse. La machine suffit pour vous prescrire comment vous devez vous comporter. Et quand on enlève la machine, ben vous vous comportez très mal. Ce qui montre qu'il faut vous placer sous tutelle machinique, si je veux dire. Il vous faut un surmoi prothétique. Et là est le problème majeur. Parce que dans le sens de nos métiers, on travaille sur l'angoisse, on travaille sur le désir, on travaille sur la culpabilité, on travaille sur la liberté. Et là, c'est plus la peine, puisque la machine fait le boulot. Alors, vous allez me dire, je prends 3 minutes de plus, Marc, vous allez me dire, n'est-ce pas, oui, mais c'est tout à fait exceptionnel. Non, ce n'est pas exceptionnel. Je n'ai pas le temps, parce que je voudrais passer au dernier point, mais c'est aujourd'hui une fabrique du lien social, cette expérience-là. C'est-à-dire que ça existe déjà dans les maisons de retraite, ça existe avec des employés modèles, ça existe partout. Partout, on vous dit, mais vous, comme dit le patron de Google, mais enfin, il n'y a que les gens qui ont quelque chose à cacher, qui ne veulent pas transmettre leurs données personnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, il faut reprendre les travaux de notre cher Omer Castel, c'est vraiment une gestion des risques. C'est uniquement ça. En gros, le comportement est simplement le lieu potentiel de l'émergence des catastrophes. Donc, tous nos métiers se transforment pour, en quelque sorte, gérer ce lieu potentiel d'émergence des catastrophes, d'émergence des risques. Et donc, on ne s'adresse plus au sujet, que ce sujet soit le sujet singulier de la psychanalyse ou le sujet du politique, c'est plus ça le problème. La fabrique du lien social, c'est mettre en place des dispositifs machiniques moins grossiers que ce que je dis, bien évidemment, là, mais des institutions qui, finalement, accompagnent les comportements. Ils les accompagnent à vie, parce qu'on n'est plus dans un système répressif, disciplinaire. On n'est plus dans le système de l'hospitalisation chronique. On est dans un système beaucoup plus ambulatoire, n'est-ce pas, d'une espèce de séquestration des intimités à vie. Et du coup, nos métiers se transforment pour se modeler là-dessus, pour se conformer à ça. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des pratiques sociales qui se mettent en place au nom de l'efficacité, au nom du moindre coût, au moins au nom, si vous voulez, d'une nouvelle civilisation des citoyens et des peuples. Et donc, c'est ce système technicien d'organisation qui se met en place et qui a justifié, en quelque sorte, notre insurrection, par exemple, à l'appel des appels. Juste un dernier point. En 2009, en 2017, comme en 1911, c'est toujours le même slogan chez les tayloristes. Dans le passé, l'homme était tout. Ce sera désormais le système. Voilà ce qui est dit chez Taylor. En gros, c'est ça. N'est-ce pas ? Dans le passé, vous vous préoccupiez dans le travail de l'humain. On n'a plus rien à foutre. vous ne devez vous préoccuper que d'une chose, c'est que le système puisse fonctionner. Alors, si vous voulez, face justement à encore une fois, à ces nouvelles méthodes. Vous vous souvenez de cette phrase de Camus, je suis très camusien, je ne vais pas citer, donc on va de le citer maintenant, n'est-ce pas ? Les méthodes impliquent des métaphysiques. Qu'on retrouve aussi chez Paul Valéry, demandez-vous toujours, derrière un système politique, quelle idée de l'homme il y a ? Quelle idée de l'humain ? Or, c'est un peu ça la question que je vous pose. Réellement. Alors, face à une pensée, si j'avais 2 heures de plus, je pourrais le développer de ce qu'on appelle aujourd'hui les échelles actuarielles en psychiatrie, par exemple. On voit bien une pensée assurantielle. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui compte, ça ne va plus être la clinique individuelle du sujet singulier. On s'en fout complètement, savoir s'il est dangereux, pas dangereux, si on peut le réinsérer ou pas le réinsérer. Ce qui compte, c'est de définir son profil de risque de voir réapparaître des comportements indésirables. Et donc, en gros, si vous voulez, ce à quoi vous allez avoir affaire demain, ça a dû en s'y être aujourd'hui, ça aura lieu demain dans le travail social, si ça n'est déjà le cas, c'est quoi ? C'était de définir des profils actuariels, c'est-à-dire une pensée d'assureur. C'est quoi l'actuariel ? C'est en gros, si je prends une prime d'assurance vie, on va voir quel âge j'ai, quels sont mes antécédents de santé, ma manière de vivre, est-ce que je mange bio, est-ce que je continue à faire du sport, est-ce que je suis marié, est-ce que j'ai une vie sexuelle démultipliée, etc. Et selon mon profil, la prime d'assurance va être différente. Si vous voulez, aujourd'hui, le psychiatre et le psychologue sont remplacés par des échelles actuarielles. Quand on veut déterminer la dangerosité de quelqu'un, on ne parle plus d'ailleurs de dangerosité, on va parler de risque de récidive. Et ben, c'est ça, en gros, on va définir des profils singuliers qui perdent toute singularité et qui ne sont plus rien d'autre que des exemplaires, encore une fois, de populations statistiques définissant une probabilité de facteur de risque. Alors, comment, pour prendre les 5 minutes qu'il m'accorde généreusement, comment, si vous voulez, comment sortir de là ? Je crois que, je vous l'ai dit, et je ne vais pas revenir là-dessus, n'est-ce pas ? Je crois que nous sommes dans une situation de prolétarisation généralisée des métiers, c'est-à-dire une prolétarisation généralisée des existences, parce que, comme l'a très bien montré Hannah Arendt, dans une société où le travail est le grand organisateur social, ce qui fait qu'il n'y a pas pire que d'être un travailleur sans travail. Dans une société, n'est-ce pas, où le métier, où le travail est le grand organisateur social, eh bien, tout le reste de l'existence est finalement modelé sur les normes que vous avez pu acquérir sur les lieux de travail. C'est-à-dire, ces normes se sont transformées en habitus, en disposition à agir, à penser d'une certaine façon, et donc vous allez aller sur des sites de rencontre de la même manière que vous allez vous présenter à un entretien d'embauche. Donc, vous voyez, il y a en quelque sorte des profils de comportement que vous allez acquérir, des schémas de pensée, des schémas d'action que vous allez acquérir et que vous allez actualiser dans l'ensemble de vos relations sociales et affectives. Alors, je crois que c'est là où, effectivement, face à ce monde désenchanté, face à ce monde désacralisé, face à ce monde technicisé, qui conduit d'ailleurs à une judiciarisation du lien social, eh bien, il va de soi que vous voyez aujourd'hui émerger, par exemple, des tentatives de redonner au monde des lieux d'accueil du souffle des opprimés, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire les nationalismes, c'est-à-dire les modes fascistes divers et variés. Mais ça, je ne vais pas en parler, mais c'est un autre topo. Bon. Le politique, pour moi, aujourd'hui, ça passe par les métiers. Non pas les métiers entendus au sens corporatiste, on a déjà donné, ça a donné le pire. Mais les métiers entendus comme les lieux où nous travaillons, où nous vivons, et où nous avons à trouver du temps, des moyens d'échanger. Bon, vous connaissez la différence de Arendt entre le travail, l'œuvre, n'est-ce pas, et le politique. Ben, je crois qu'effectivement, il nous faut restituer les dimensions artistiques, artisanales et politiques de nos métiers. C'est-à-dire qu'il nous faut réinventer une politique qui passe, encore une fois, par la réappropriation de la démocratie confisquée par la technocratie sur les lieux de travail. Et je crois que c'est d'autant plus facile que justement ces nouvelles technologies qui aujourd'hui sont des vecteurs de notre aliénation, pourraient être les supports de notre émancipation. C'est-à-dire qu'effectivement, puisque on va avoir moins de travail, moins de temps de travail, on va avoir plus de disponibilité. Plus de disponibilité, ben oui, à partir du moment où on ne travaillera pas 35 ou 40 heures par semaine, mais à partir du moment où on peut avoir 35 ou 40 heures par semaine sur les lieux de travail, mais pas seulement pour produire. Non, et là, vous comprenez, il m'a donné 3/4 d'heure. Je ne peux pas vous raconter ce que je raconte en 3 heures à l'appel des appels. Hein. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on peut être ensemble 35 heures ou 40 heures dans les institutions, à condition non pas de passer 35 ou 40 heures dans l'institution à produire ou à faire des actes qui ont été prescrits, mais à réfléchir sur ce que nous faisons, à échanger ensemble. C'est-à-dire, si vous voulez, il faut bien voir que cette notion de temps, cette notion de liberté, cette notion de pensée sont vraiment ce à partir de quoi nous pourrions produire, pour le coup j'emploie le mot, un travail de meilleure qualité parce qu'il aurait été pensé et partagé. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. C'est-à-dire que, vous savez, la phrase terrible de Lyotard, dans un univers où le succès de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, en faire perdre. Et bien justement, perdons du temps ensemble en réfléchissant à ce que nous faisons. Or, aujourd'hui, tout est mis en place pour nous éviter d'avoir à réfléchir et pour nous éviter d'avoir à nous parler. Et non pas parce que c'est inefficace, mais parce que politiquement, si nous nous parlons, nous risquons d'être solidaires. C'est ce que j'ai essayé de vous raconter tout à l'heure à propos, si vous voulez, à propos justement de Taylor. Alors, pour terminer, ben justement, il y a eu déjà dans l'histoire des mouvements. Le mouvement Hardencraft, avec Ruskin, William Morris, etc., ont montré qu'il était possible à la fois de faire reposer une existence professionnelle sur le trépied de l'art, de l'artisanat et du socialisme. Bon, c'est finalement ça. C'est finalement cette idée, si vous voulez, qu'il est possible de faire un bon travail. Et Maurice assurer la promotion de ce qu'on pourrait appeler la désobéissance artistique et artisanale. Ben, c'est un peu ça sur quoi je vous invite. C'est-à-dire, en gros, arrêtons de participer à cette fabrique de servitudes volontaires que sont les aliénations des évaluations. On dit ça suffit. Peut-être que ça permet à des économistes et à des statisticiens de faire des carrières, mais nous, on n'en veut plus. On n'en veut plus de ça. On veut bien évaluer, mais autrement. On veut bien évaluer, mais par la parole, par la pensée, par l'échange, et il nous faut du temps pour ça. Alors, je crois que c'est essentiel, parce que, si vous voulez, je n'ai pas le temps de dire, mais en gros, la fonction sociale de l'art et de l'artisanat, il faut bien voir qu'elle est alternative à la religion. Donc, je n'ai pas le temps de développer, mais si on prend Tolstoï, si on prend Benjamin, par exemple, on voit bien comment, si vous voulez, l'art est une religion laïque. Et si nous ne donnons pas, c'est pour ça qu'il a eu raison de citer Marx, n'est-ce pas, si nous ne donnons pas aujourd'hui à nos actes professionnels cette dimension artistique et artisanale, c'est-à-dire quelque chose qui, religion, ça veut dire relié. Donc il faut pas, on peut combattre les églises, mais on va forcément combattre les religions. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Et si on ne restitue pas cette dimension-là de lien, de relier par l'art, je dirais, du travail, alors nous risquons de voir effectivement se fabriquer, si vous voulez, plus que jamais, des mouvements intégristes, fondamentalistes, etc. Bon, je n'ai pas le temps d'en parler, je termine juste par deux citations, ça va ? Deux citations. La première, si vous voulez, elle est de Benjamin. Nous revendiquons une place pour la parole et le récit, ça c'est moi qui le dis, afin qu'au sein des professions, les actes accomplis portent une trace singulière et sociale. Benjamin dit, le conteur imprime sa marque au récit, comme le potier laisse sur la coupe d'argile l'empreinte de ses mains. Donc, la deuxième et dernière citation, elle sera de Foucault. C'est une réponse de Foucault aux étudiants de Berkeley sur l'art, parce qu'il ne faut pas se tromper. Quand je dis l'art, quand votre boulot, quand mon boulot, il est bien fait, où effectivement on se produit artisanalement, artistiquement et politiquement dans ce qu'on fait, c'est de l'art. C'est pas de l'art au sens des tableaux du Quattrocento, mais c'est de l'art quand même. Il y a une phrase de Foucault qui est très importante là-dessus, qui dit « Ce qui m'étonne, c'est le fait que dans notre société, l'art est devenu quelque chose qui n'a un rapport qu'avec les objets et non pas avec les individus ou la vie. » Et aussi que l'art est un domaine spécialisé fait par des experts qui sont des artistes. Mais la vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d'art ? Pourquoi une lampe ou une maison sont-ils des objets d'art et non pas notre vie ? Donc si notre vie est si intimement liée et indissociable de notre métier, pourquoi ne pas faire de notre métier une œuvre d'art ? C'est cela que je vous propose. Et je termine encore avec Benjamin qui disait que peut-être ça nous permettra de dépasser la négativité du monde par le désespoir de notre imagination. Je vous remercie.